Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission scientifique Histoire de savoir. Nous sommes aujourd'hui avec Manoé dans les studios de Radio Campus pour vous parler d'un sujet que vous connaissez sans doute très bien.
Et oui Léa, si je vous parle de soirée ou bien encore de verre en terrasse sous le soleil, vous pensez tout certainement à l'alcool. C'est donc d'alcool qu'il va être question aujourd'hui et plus particulièrement de consommation chez les jeunes.
Quoi de mieux au final que deux étudiantes pour vous parler de ce sujet ? Personnellement, j'ai déjà fait un Erasmus en Colombie, donc je sais de quoi je te parle. Et toi Manoé, je suppose que tu as aussi expérimenté les soirées festives des premières années universitaires.
Oui, tout à fait Léa. Il faut dire que j'ai réalisé mon bachelier à Louvain-la-Neuve, donc les soirées, c'est pas ce qui manque là-bas.
Bon, dans cette émission, on ne va pas vous apprendre à affoner une bière, on ne va pas non plus vous faire une revue de toutes les bières spéciales belges qu'il existe. Il sera plutôt question de jeter un coup d'œil sur le corps humain et de voir quels sont les effets de l'alcool sur le cerveau.
C'est vrai que c'est bien chouette de faire des soirées alcoolisées avec ses amis, mais celles-ci ne sont pas sans conséquences pour notre corps. Tout d'abord, nous avons souhaité interroger des étudiants sur leur consommation d'alcool. Je vous laisse les écouter.
À quelle fréquence tu consommes de l'alcool ?
Je sais pas, plusieurs fois par semaine, on va dire 4-5 fois.
Par semaine ? Une fois, on va dire, de temps en temps.
Tous les jours, voire tous les deux jours.
En moyenne, 3 fois par semaine ?
3 fois par semaine, 4 fois.
Combien de fois par semaine ? Des choses comme ça, ouais.
Je dirais une fois tous les 2 ou 3 jours.
1 à 2 fois par semaine.
Et c'est dans quel contexte ?
En vrai, soit en soirée dans un cadre festif, soit juste comme ça, en plus petit groupe, pour se rejoindre et discuter, quoi.
En sortie avec des copines souvent, ou moi des fois avec mes parents, un petit apéro, quoi.
Sortie avec des amis, oui. Dans des bars ou à la maison.
Généralement soirée, sinon pas régulièrement, quoi.
Souvent avec des amis. Soit sur le campus ou alors dans des bars à côté du campus.
Amusement, divertissement.
Ouais, la même chose quand c'est les soirées, quoi.
Est-ce que tu dirais que ta consommation d'alcool a augmenté depuis que tu es aux études ?
Ouais, clairement.
Oui.
Oui.
Oui, clairement.
Oui, largement.
oui.
Bah, j'ai commencé à boire depuis que je suis aux études.
Oui, clairement. C'est ce que j'ai fait mon baptême.
En première année, oui, puis après, elle a vachement diminué.
Je pense que le contexte aussi folklorique des universités t'entraîne un peu là-dedans, même sans que tu t'en rends compte vraiment. Donc,
Surtout avec les soirées de cercle, là, ça monte vite, quoi.
Bah, la socialisation, quoi. Le fait d'être avec les autres et qu'ils boivent autour de nous, c'est toujours compliqué de dire non quand quelqu'un nous offre un verre, quoi.
Les étudiants de l'ULB sont unanimes. Tous consomment de l'alcool toutes les semaines. Que ce soit entre amis, en famille ou dans un contexte universitaire, toute excuse est bonne pour prendre un verre.
Oui, et à cela s'ajoute la pression sociale. Comment dire non lorsque tout le monde boit ? Et c'est d'autant plus compliqué dans le cadre folklorique universitaire. Boire, c'est social et refuser, ça peut nous mettre à l'écart. Du moins, c'est ce qu'on pense.
Sur le même thème, il y a une étude de l'UC Louvain, qui a prouvé que les étudiants Erasmus font plus la fête et donc boivent davantage d'alcool que les locaux.
C'est vrai que les étudiants Erasmus ont tendance à vouloir profiter un maximum lorsqu'ils viennent dans un autre pays, et profiter rime souvent avec soirée.
Et oui, pour 90% d'entre nous, l'alcool n'est pas consommé de manière problématique. On n'est pas tous des gros fêtards tous les week-ends, mais il nous arrive à tous de consommer excessivement de temps en temps. Mais si une personne sur 10 a des problèmes de dépendance, alors on peut dire que l'alcool c'est un problème de santé publique. D'ailleurs, il y a une enquête de Sienzano qui a démontré que 14% des Belges boivent de manière excessive, c'est-à-dire plus de 10 unités d'alcool par semaine. Le chiffre le plus impressionnant de cette enquête, c'est que 45% des 15-24 ans ont commencé à boire avant 16 ans.
Ok, donc presque la moitié des jeunes commencent à boire à 16 ans. Mais du coup, c'est quoi les causes ? On a demandé à Salvatore Campanella de nous éclairer sur certaines questions. Il est chercheur au laboratoire de psychologie médicale et addictologie en faculté de médecine.
Les causes, je pense qu'il y en aurait beaucoup. Je pense qu'on est dans une société où l'alcool est valorisé. On est dans une société où l'alcool a une image positive, contrairement à tout le reste des drogues. Il y a beaucoup de publicité concernant l'alcool, la Jupiler Pro League. Je veux dire, le fait que quand on arrive à l'anniversaire, si on ne veut pas boire de l'alcool, on va être vu comme un rabat-joie ou comme si on était malade. Donc je pense qu'au niveau culturel, l'alcool est très très valorisé dans notre société. Ça, c'est quelque chose d'important. Et alors, évidemment, il y a aussi l'impact des stratégies qu'ils ont mises en place par les alcooliers, donc les producteurs d'alcool. On sait que le packaging et tout ça sont des choses qui influencent beaucoup les jeunes. Et alors, il y a des choses, par exemple, je vais prendre l'exemple du Kidibulle. Ben, c'est quelque chose où on sait clairement que l'idée, c'est de dire, ben voilà, tu es petit, donc tu bois du Kidibulle, ça a la même forme, la même bouteille que le champagne, et quand tu seras grand, ben, tu pourras boire la bouteille de champagne. Donc, il y a aussi toute une série de choses qui sont faites dans le lobby de l'alcool, etc., qui poussent, je pense, les jeunes à boire de plus en plus tôt. Aussi avec toutes ces boissons alcoolisées, mais très sucrées, hein, comme les Bacardi Breezer et tout ça, ce sont des boissons qu'on peut boire comme ça, quasiment sans se rendre compte qu'on boit de l'alcool, en fait. Et donc ça, évidemment, c'est tourné vers les jeunes. Et ce sont des choses qui amènent, on va dire, le jeune à consommer aussi de plus en plus tôt.
Et comment ces jeunes consomment-ils de l'alcool ? Est-ce qu'il y a des tendances qui se sont développées ?
Alors oui, en ce moment, la nouvelle tendance en vogue, c'est le binge drinking. Donc ça veut dire boire plus de 6 unités d'alcool en 2 heures. Donc plus concrètement, c'est boire plus de 4 ou 5 verres assez rapidement. Le binge drinking, il est considéré par beaucoup d'experts comme préoccupant parce que, avec cette nouvelle tendance, notre rapport à l'alcool devient malsain. Et là, le seul but, c'est clairement de finir ivre.
Donc un étudiant peut se considérer binge drinker quand il boit sur la même soirée plus de 4 à 5 verres.
C'est ça. En 2019, l'agence intermutualiste a tiré la sonnette d'alarme. En Belgique, près de 6 jeunes de 12 à 17 ans sont admis chaque jour à l'hôpital en raison d'une consommation abusive d'alcool. Et je trouve ce chiffre super impressionnant et je ne suis pas la seule parce que la Belgique, elle se dote d'un plan interfédéral 2023-2025 contre la consommation nocive d'alcool et celui-ci concerne particulièrement les jeunes. Par exemple, désormais la vente d'alcool pour les 16-18 ans sera interdite, la publicité liée à l'alcool sera strictement réglementée et un véritable parcours de soins sera créé pour les adolescents et les jeunes adultes qui en ont besoin.
Alors on a parlé de chiffres, de consommation chez les jeunes, mais les jeunes sont-ils au courant des effets néfastes que l'alcool peut engendrer sur le corps humain et plus particulièrement sur le cerveau ?
Ça sur le cerveau pas du tout, mais genre à court terme oui, genre je déteste être trop bourré, du coup je me bourre jamais énormément la gueule.
Non, j'irais, je connais les effets nocifs, mais ça m'inquiète pas trop, je sais que c'est plutôt la guindaille et le moment.
Ouais, je suis au courant, mais franchement je pense pas du tout à ça dans ces moments-là.
Je suis au courant, enfin je les ressens direct en fait le lendemain, je me sens vraiment pas bien du coup.
Oui, énormément, moi j'ai remarqué que ma mémoire avait vraiment diminué depuis que je consommais beaucoup d'alcool. Donc j'ai vachement diminué.
Il faut pas consommer tout le temps, il faut fractionner un peu, pas dans la semaine, pas tous les jours, parce que si tu prends un peu d'alcool tous les jours, tu vas avoir des effets néfastes au long terme. Mais une petite cuite, une fois tous les 6 mois, ça fait pas de mal, moi je dis. C'est limite bon pour le stress et pour le bien-être mental, je trouve.
Je suis au courant, mais je suis pas assez renseignée, je pense.
Bon, voilà un des problèmes. Les jeunes savent que l'alcool n'est pas bon pour le corps, mais ils ne savent pas réellement pourquoi.
C'est vrai, les effets de l'alcool sur le court terme, on les connaît tous. C'est notamment dû au fait qu'ils sont plus visibles que les effets à long terme. Ça va du mal de crâne, au vomissement, à la fatigue, etc. Bref, c'est la gueule de bois, quoi. Mais ce que l'on remarque, c'est que très peu de jeunes sont réellement au courant des effets sur le long terme et notamment sur le cerveau. Le problème dans tout ça, c'est qu'après, il y a pas mal de fausses croyances qui circulent. Par exemple, c'est pas parce que vous allez consommer beaucoup d'alcool que vous allez subitement devenir bête. Ou encore, ce n'est pas parce que vous vous abstenez de boire pendant la semaine que le week-end, vous pouvez boire des litres d'alcool en une fois.
Pour essayer de comprendre tout ça, on va voir comment l'alcool agit sur le cerveau. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'alcool, c'est une substance neurotoxique. Donc une substance neurotoxique, c'est une substance qui induit des effets néfastes dans le cerveau et qui va, entre autres, détruire des neurones et des cellules nerveuses. Par exemple, si on réalise un IRM, on va voir ça par la perte de masse musculaire du cerveau.
Ok, donc l'alcool, c'est mauvais pour notre santé, mais qu'est-ce qui fait qu'on a toujours envie d'en boire ? Pour comprendre, il faut aller voir ce qui se passe dans le cerveau lorsqu'on boit un verre d'alcool.
Boire de l'alcool, c'est en général très positif pour énormément de gens parce que vous avez dans votre cerveau ce qu'on appelle le circuit de la récompense. Donc ce sont des zones de votre cerveau qui vous font ressentir du plaisir. Et ça fonctionne sur base, si vous voulez, les différentes régions de votre cerveau, elles communiquent entre elles. Et elles communiquent en utilisant des substances chimiques, Une de celles-ci, c'est la dopamine. Et en fait, l'alcool, ce qu'il fait, c'est qu'à partir du moment où vous buvez de l'alcool, il va directement, via le sang, aller dans le cerveau. Et il va augmenter la libération de dopamine dans ce circuit de la récompense. Donc, quelque part, en buvant de l'alcool, vous activez ce circuit de la récompense. Et c'est pour ça que très rapidement, quand vous buvez de l'alcool, vous vous sentez un peu plus joyeux, un peu plus désinhibé, un peu plus extraverti, un peu plus souriant, parce que vous activez ce circuit de la récompense grâce à l'augmentation de la libération de la dopamine dans ce circuit.
Donc en gros, si j'ai bien compris, je bois de l'alcool va dans mon sang, le sang va vers le cerveau pour libérer de la dopamine, ce qui fait que j'ai encore envie de boire.
Voilà, c'est ça. La dopamine, elle joue un rôle crucial dans ce phénomène. C'est ce neurotransmetteur qui nous fait nous sentir bien, à l'aise ou joyeux. C'est une molécule qui est produite par les neurones et qui a une influence sur notre comportement. Je pense qu'on a tous déjà expérimenté le fait d'être moins stressé après avoir bu un verre.
Oui, clairement, on oublie un peu les tracas du quotidien. Mais dans le fond, quels peuvent être les effets secondaires ?
Ce qui est important à savoir, c'est que ce circuit de la récompense, en fait, il est très proche des zones de la mémoire et des zones des émotions. Donc, un effet secondaire possible et qui peut vous rendre plus vulnérable à développer une addiction plus tard dans le temps, c'est que vous pouvez assez rapidement créer ce qu'on appelle des associations en mémoire. Enfin, votre cerveau va créer des associations en mémoire. Dans le sens où si vous rentrez un soir, vous êtes stressé par votre journée, vous buvez un verre de vin et directement vous mettez dans le canapé, vous vous sentez plus relax, votre cerveau va créer une association qui est « je me sentais stressé, je bois un verre de vin, je me sens mieux ». Et donc cette association-là, évidemment, si vous la répétez dans le temps et que vous la répétez plusieurs fois, elle va prendre de l'importance et ça pourrait vous amener dans des circonstances de vie difficiles plus tard dans votre vie, suite à un divorce ou à un décès, etc., quelque part, de vous remémorer cette idée qui est, quand je me sens mal, je bois de l'alcool et je vais mieux. Et donc, ça peut être, quelque part, un effet secondaire de ces premières consommations et de ces associations en mémoire, où vous allez, quelque part, rentrer dans le cercle vicieux qui est, si je me sens pas bien, je bois. Et au départ, ça me permet peut-être d'aller mieux, évidemment, mais vous allez tomber dans un état de dépendance qui va faire que les choses ne vont ensuite plus qu'empirer et empirer. Donc voilà, c'est un peu ces liens qui peuvent exister entre... Le fait de vous dire, je ne vais pas bien, je bois, je me sens mieux. Et donc, quelque part, c'est un mode, une stratégie, on va dire, pour un petit peu gérer votre stress ou votre dépression, alors que ce n'est sans doute pas le moyen le plus adapté. Malheureusement, il n'y a pas une recette claire à donner au niveau de la consommation d'alcool. Il y a des très grandes variabilités inter-individuelles. Donc, certaines personnes vont très bien supporter l'alcool, alors que d'autres, avec la même dose, vont être complètement sous. Les impacts à moyen et à long terme, c'est aussi très différent. Certaines personnes vont devoir boire pendant d'énormes quantités, pendant très longtemps, pour développer une dépendance, alors que d'autres personnes vont boire quelques fois de façon excessive pendant quelques semaines et vont directement devenir dépendants. Donc on sait que dans cette vision-là des choses, il y a un facteur qui est important, c'est la génétique. Donc là, on sait que les enfants de parents alcooliques ont plus de risques de tomber dans les dépendances. Il y a une très grande variabilité inter-individuelle, il y a des facteurs environnementaux qui jouent, génétiques qui jouent, et donc tout ça mis ensemble fait que malheureusement, il n'y a pas une recette claire et précise du style « si vous buvez autant d'alcool pendant autant d'années, vous allez devenir dépendant ». Malheureusement, les choses sont très différentes d'une personne à l'autre, donc on n'a pas de recette claire à donner à ce niveau-là.
Donc la dépendance vient de cette association entre « je ne me sens pas bien, je bois un verre » et donc « je me sens mieux ».
Oui, le cerveau est un organe très puissant qui retient rapidement les expériences positives, par exemple. Comme le dit M. Campanella, le cerveau va créer ce qu'on appelle des associations en mémoire. C'est-à-dire qu'il va retenir ce qui lui a été utile pour vaincre un moment de stress ou de mal-être.
Alors dans cette émission, nous nous concentrons principalement sur la consommation d'alcool chez les jeunes. On a déjà essayé de comprendre pourquoi des restrictions d'alcool sont imposées à un certain âge. On sait par exemple qu'en Belgique, il est autorisé de consommer de la bière à partir de 16 ans, et pour les autres alcools, c'est à partir de 18 ans.
Mais alors, pourquoi est-ce qu'il serait plus dangereux de boire beaucoup d'alcool à 20 ans que quand on en a 40 ?
C'est que boire de l'alcool, je dirais, à 15 ans, c'est plus dangereux encore que d'en boire à 20, dans le sens où on sait aujourd'hui que notre cerveau il est en pleine maturation jusqu'à 20 à 25 ans. Et donc, le fait de boire de l'alcool, non seulement ça tue des neurones, mais ça empêche aussi la formation de ces nouvelles régions au niveau du cerveau qui doivent encore devenir matures. Et il y a pas mal d'études qui ont suivi des jeunes pendant très longtemps, une dizaine d'années dans leur vie, et qui ont montré qu'au plus tôt on commence à consommer, au plus on a de risques de développer une dépendance à l'alcool dans des circonstances de vie difficiles plus tard dans sa vie. Les chiffres disent plus ou moins qu'il y a 3 à 4 fois plus de chances à développer une dépendance si vous consommez de façon excessive autour de 14-15 ans que si vous consommez de façon excessive pour les premières fois autour de 20 ans. Donc voilà, là oui, il y a vraiment une importance du moment de consommation et cet impact est d'autant plus important que vous êtes jeune en fait.
Donc non seulement il y a plus de risques de développer une dépendance lorsqu'on commence à boire jeune, mais en plus de ça, ça va impacter le bon développement du cerveau.
C'est exactement ça. Ce qui se passe, c'est qu'à l'adolescence, le cerveau est encore en pleine maturation. Donc d'un côté, on a le cerveau limbique. Ces zones du cerveau limbique, elles jouent un rôle très important au niveau de la mémoire, mais aussi au niveau de diverses émotions, comme l'agressivité, la peur ou encore le plaisir. Ces zones du cerveau limbique, elles deviennent matures assez rapidement à l'adolescence.
C'est donc pour ça que quand on est jeune, on est souvent à la recherche de sensations, on peut être attiré par le danger ou ce genre de choses.
Oui, en effet, quand on est jeune, on est souvent davantage à la recherche d'expériences ou de challenges. Et cette recherche d'aventure et de folie s'accompagne souvent de consommation d'alcool. Le problème dans tout ça, c'est que quand on est jeune, il y a une autre partie du cerveau qui est seulement encore en train de se développer. Ce sont les zones frontales du cerveau. Ces zones frontales du cerveau sont censées réguler les comportements à risque. Elles émettent en quelque sorte des signaux d'alerte quand il y a besoin.
Et ces zones du cerveau, elles sont toujours en maturation jusqu'à l'âge de 20-25 ans. Donc en gros, le système de contrôle du cerveau n'est pas encore mature quand on a 15-20 ans. On a donc moins de réflexes qui peuvent nous mettre en garde du danger.
C'est ça, mais ça veut dire qu'il y a des conséquences du coup. Étant donné que l'on ne reçoit pas de signal d'alerte quand on boit encore et encore sans limite. Mais on le rappelle, l'alcool est une substance neurotoxique. Donc en buvant de l'alcool, on induit une perte neuronale. Cette perte neuronale va donc impacter le bon développement de cette fameuse zone de contrôle. Bref, c'est un cercle vicieux et donc c'est pour ça que plus on commence à boire de l'alcool jeune, plus ça augmente les risques d'une potentielle dépendance plus tard.
Remplis mon verre, encore un et je vais, encore un et je vais, non, je ne pleure pas, je chante et je suis gai, mais j'ai mal d'être moi, ami, remplis mon verre, ami, remplis mon verre. Buvons à ta santé, toi qui sais si bien dire que tout peut s'arranger, qu'elle va revenir. Tant pis si tu es menteur, tavernier sans tendresse, je serai sous dans une heure, je serai sans tristesse. Buvons à la santé des amis et des rires que je vais retrouver, qui vont me revenir. Tant pis si ces seigneurs me laissent à terre, je serai sous dans une heure, je serai sans colère. Ami, remplis mon verre, encore un et je vais, encore un et je vais, non, je ne pleure pas, je chante et je suis gai, mais j'ai mal d'être moi, ami, remplis mon verre, ami, remplis mon verre. Buvons à ma santé, que l'on boive avec moi, que l'on vienne danser, qu'on partage ma joie. Tant pis si les danseurs me laissent sous la lune, je serai sous dans une heure, je serai sans rancune. Buvons aux jeunes filles qu'il me reste à aimer, buvons déjà aux filles que je vais faire pleurer, et tant pis pour les fleurs qu'elles me refuseront, Je serai sous dans une heure, je serai sans passion. Ami, remplis mon verre, encore un et je vais, encore un et je vais. Non, je ne pleure pas, je chante et je suis gai, mais j'ai mal d'être moi. Ami, remplis mon verre, ami, remplis mon verre. Buvons à la putain qui m'a tordu le cœur. Buvons à plein chagrin, buvons à pleine pleurs. Et tant pis pour les pleurs qui me pleuvent ce soir. Je serai sous dans une heure, je serai sans mémoire. Buvons nuit après nuit, puisque je serai trop laid pour la moindre Sylvie, pour le moindre regret. Buvons puisqu'il est l'heure, buvons rien que pour boire. Je serai bien dans une heure, je serai sans espoir. Ami, remplis mon verre, encore un oui, je vais, encore un oui, je vais. Non, je ne pleure pas, je chante et je suis gai, tout s'arrange déjà. Ami, remplis mon verre, ami, remplis mon verre, ami, remplis mon verre.
Après cette pause musicale accompagnée de Jacques Brel, passons à la suite de l'émission. Alors maintenant, on voulait aborder deux idées reçues qui ont été mentionnées par les étudiants dans le micro-trottoir. La première, elle concerne la quantité d'alcool et la répartition de celle-ci.
Oui, on l'a vu lorsqu'on a interrogé des jeunes sur le campus universitaire de l'ULB. Certains pensent qu'il vaut mieux consommer une fois en grande quantité plutôt que de répartir la consommation.
Oui, et c'est totalement faux. Contrairement à ce que certains peuvent penser, ce n'est pas parce qu'on se prive de boire la semaine que l'on peut alors se permettre d'ingurgiter une grande quantité d'alcool en une fois le week-end, par exemple.
Oui, et cet impact, il est même plus important que si tu avais consommé de manière quotidienne durant la semaine. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est le mode de consommation qui est primordial. Prenons l'exemple de deux personnes qui consomment la même quantité d'alcool, mais de manière différente. D'un côté, on a un binge drinker, donc une personne qui consomme de grandes quantités d'alcool en une fois. Et de l'autre, on a une personne qui consomme de petites quantités, mais de manière hebdomadaire. Par exemple, un verre de vin tous les jours. Eh bien, la personne qui va encaisser une plus grande perte neuronale sera le binge drinker.
Mais donc du coup, pour résumer, quelle est la meilleure stratégie à adopter si l'on souhaite vraiment consommer de l'alcool ?
Ne pas se dire « si je bois pas toute la semaine, je peux boire mes 10 doses samedi soir », mais plutôt s'orienter vers une consommation à partir du moment où on sait aussi que l'alcool est neurotoxique et que quoi que vous fassiez, à partir du moment où vous buvez de l'alcool, vous perdez des cellules. Mais si vous voulez boire, je dirais, il vaut mieux privilégier une consommation légère, je dirais un verre de vin par jour, par exemple, en essayant de se restreindre au maximum, un maximum d'hiver par semaine. Mais il vaut mieux prendre un verre de vin par jour que de se dire, je ne bois pas du lundi au vendredi, mais je bois ma bouteille complète le samedi et le dimanche, quoi.
Alors, il y a un autre point qui est intéressant et qui mérite d'être soulevé. On disait que l'alcool tue des cellules du cerveau, mais ça ne veut pas dire que si on consomme de l'alcool, on risque de devenir bête. Notre cerveau possède quand même 250 milliards de neurones.
Oui, en fait, cette perte neuronale, elle ne se ressent pas directement. Par contre, c'est pas parce qu'on ne ressent pas cette perte neuronale qu'elle n'est pas dangereuse. En fait, tout se joue encore une fois sur le mode de consommation.
Le cerveau des binge drinkers doit travailler de manière plus intense pour arriver aux mêmes performances lors de la réalisation d'une tâche. Ce qui veut dire que si on prend deux individus, Alex, qui boit raisonnablement de temps en temps, et Thomas, qui boit de grandes quantités d'alcool sur un laps de temps court, Thomas va devoir fournir une activité cérébrale plus importante qu'Alex pour réaliser cette même tâche. Ça ne veut pas dire que Thomas est moins intelligent que Alex, ça veut juste dire qu'il doit fournir une activité cérébrale plus conséquente.
Et j'avais une question, est-ce que boire en étant jeune peut endommager la mémoire ?
Alors, en effet, l'alcool est une substance qu'on dit neurotoxique, donc c'est une substance qui détruit les neurones, les cellules nerveuses. Et l'alcool est une substance dont on sait qu'elle atteint notamment les zones de la mémoire, notamment une région qui est très importante qui s'appelle l'hippocampe, qui est une région qui est importante pour tout ce qui est encodage des informations. Et donc, étant donné que cette substance détruit les neurones de cette région-là, ça explique, on va dire, les atteintes de mémoire. Et poussé à l'extrême, on a ce qu'on appelle le syndrome de Korsakoff, qui est une démence liée à l'alcoolisme et qui est donc une démence où, effectivement, vous avez des très grosses perturbations amnésiques et où, voilà, c'est très, ça impacte vraiment la vie de la personne. C'est une démence, on va dire, différente de la démence d'Alzheimer, mais qui est tout aussi invasive dans sa forme, quoi.
Ok, on a parlé du fonctionnement du cerveau, des effets négatifs que l'alcool peut avoir sur celui-ci. Mais alors concrètement, quelles sont les recommandations mondiales de consommation? Autrement dit, quand peut-on considérer que notre consommation est nocive?
Eh bien, si on écoute l'OMS, elle recommande de ne pas dépasser une dizaine de doses d'alcool par semaine pour limiter les risques. Donc pour vous donner une image, une dose d'alcool, ça peut être soit 25 centilitres de bière, 10 centilitres de vin ou 3 centilitres de vodka. Donc ce qui veut dire que 5 pintes, c'est le maximum que vous pouvez boire par semaine. L'alcool, comme on l'a déjà dit, il est neurotoxique, donc même une petite quantité endommage les cellules cérébrales et le risque zéro n'existe pas. Mais vraiment, je pense que le problème pour les jeunes, c'est qu'on n'a pas une recette claire qui indique à partir de quelle quantité c'est trop pour notre corps. As he falls back deeper into a state. The return. About the cheese, baby. My mind is speeding by, I'm holding on. Asking God to help, but why you hit me? Girl is telling me she don't know what she want. Lot of demons creeping up, the living underneath. Gotta take a minute, y'all travel far. Feeling something, no, I can't ignore my instincts. Back just where I started, it's the same old damn songs I need. Trying to find it on the right track. Oh, wanna be just for the free act. Talk to him, he don't speak back. Can't lose, I'm in the third act. Lord, seeing me swerve. Do this to my loved ones, I've got some nerve. Don't think I'm not sorry. Hear me now, hey, this time I'm ready for it. Can't stop this war in me. Can't stop this war in me. Me. Hear me now, hey, this time I'm ready for it. This fight, this war in me.
Back on my lane, that's just a remedy. Something about the night that keep me safe and warm. Just me, the universe, and everything I think. How the fuck is weighing on me, it's a storm. Never thought I would be back here bleeding. I'm not just some sad dude. You can see my life, how I grew. I want serenity. Trying to find it on the right track. Oh, I wanna be just for the fiat. Talk to me, don't speak back. Can't lose, I'm in the third act. See, it seems I'll never learn. I won't stop till I crash and burn. Tell my mom I'm sorry. Hear me now, hey, this time I'm ready for it. Can't stop this war in me. Can't stop this war in me. Me. Hear me now, hey, this time I'm ready for it. This fight, this war in me. I've been here before, hey, I've been here before. Can't stop this war in me, can't stop this war in me, me. And the story goes, hey, as the story goes. Despite this war in me, despite this war in me, me.
Après cette petite pause signée Kid Cudi, passons à la suite de l'émission. Alors pour cette dernière partie, on voulait aborder des fun facts autour de la thématique de l'alcool, tout en essayant de continuer à apporter des conseils quant à la consommation de celle-ci. Alors une première question que nous nous sommes posées, c'est de savoir s'il y avait une différence entre les femmes et les hommes en matière de résistance face à l'alcool.
Eh bien oui, il y a une différence, parce que les femmes ont un métabolisme différent des hommes. Donc déjà pour comprendre, le métabolisme, c'est les réactions chimiques qui se produisent dans chaque cellule de notre corps. Et les femmes n'ont malheureusement pas les mêmes enzymes que les hommes pour métaboliser l'alcool. Donc elles sont plus vite sensibles aux effets de l'alcool.
Et je me posais une question, il me semble qu'on a tous connu cette personne qui peut boire des litres et des litres d'alcool sans jamais tomber. Comment on explique ça ? Est-ce qu'il y a des personnes plus résistantes à l'alcool, face à l'alcool que d'autres ?
Oui, plus résistantes, on va dire, il y a des personnes probablement qui métabolisent mieux l'alcool et qui pourront en supporter plus les effets, on va dire, négatifs que d'autres. Mais c'est vraiment une question, on va dire, de métabolisation chimique, donc... oui, c'est pas une question, on va dire, d'effet, on va dire, vraiment au niveau cérébral, etc. C'est plus une question de comment l'organisme métabolise l'alcool. Et certaines personnes ont plus d'enzymes qui permettent de dégrader l'alcool et que le foie fasse bien son travail, on va dire, par rapport à d'autres qui sont peut-être moins bien armés à ce niveau-là. Mais les conséquences de la quantité d'alcool consommée, je veux dire, par exemple, sur le cerveau, elle sera similaire. Vous pouvez bien supporter l'alcool, mais quand même, la quantité d'alcool reste la même. Et donc, l'impact au niveau de la perte des neurones, par exemple, ou de la perte des cellules sera la même, en fait, même si vous le supportez, entre guillemets, mieux.
Et pour celles et ceux qui ne connaissent pas, tu peux nous expliquer ce qu'est le phénomène du blackout, Manoé ?
Alors, le blackout, il survient lorsque la consommation d'alcool, elle est excessive. Les fonctions cérébrales qui permettent de rester conscient de ses actions sont perturbées. Alors au début, l'alcool provoque souvent un sentiment d'euphorie, mais plus la consommation augmente et plus les effets négatifs dominent. Il peut arriver qu'on ait une perte motrice, des difficultés à parler, et bien souvent le lendemain de cette soirée bien arrosée, on a tout oublié. Et si on ne se souvient pas des événements, c'est parce que l'alcool interfère avec les connexions cérébrales nécessaires à la conscience de ses actes.
Ah, j'aurais pas dû, ah. Alcacézer, Motilium, Alcacézer, Motilium, Alcacézer. À boire des Jéroboam de San Pellegrino toute la journée. Et à appeler toutes tes copines depuis ton lit pour savoir ce qui s'est réellement passé la veille. Ouais, non, c'est horrible, moi aussi. C'est horrible. Moi, je vais crever, c'est horrible. Ah non, mais moi, je... Ah non, non, mais bien sûr, on a été drogués, c'est impossible. Ah bah, ils ont mis de la vodka dans la vodka, c'est impossible autrement. Ah non, mais moi, je ne peux pas bouger, je vais décéder. Moi, c'est terminé, plus jamais. Non, 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 c'est la dernière fois, même plus... Ouais, c'est horrible, terminé, plus jamais. Ouais, on se retrouve ce soir, nickel.
Bon, alors, comme Florence Foresti le décrit si bien, on a tous déjà vécu ces lendemains de soirée où on a cru qu'on allait mourir, entre guillemets, tellement on n'était pas bien. Cette phase, elle porte le nom tant bien connu de « gueule de bois ».
D'ailleurs, pour information, l'expression « gueule de bois » est apparue à la fin du XVIIIe siècle, et à ce moment-là, elle désignait déjà cette phase du lendemain de soirée, durant laquelle tu ne te sens pas bien. Ce terme, il a été choisi parce qu'il désigne le fait que, durant cette phase, on a la bouche sèche comme du bois, la bouche un peu pâteuse, comme on dit.
Ah ouais, ok, j'étais pas du tout au courant de l'origine de cette expression. Ce qu'on peut se demander ensuite, c'est comment vaincre cette gueule de bois, quels sont les remèdes ? Alors pour la combattre, ne faites pas comme Florence. Combattre le mal par le mal en faisant la fête le jour même, ça ne fonctionne pas.
Oui, effectivement, c'est pas la bonne solution. On a donc demandé à Monsieur Campanella qu'est-ce que lui pouvait conseiller dans ces moments-là.
Moi ? Mais non, mais la gueule de bois, je pense sincèrement que ben déjà le fait de boire de l'eau, ça va déjà beaucoup, beaucoup vous aider. Si donc vous prenez l'idée, c'est vraiment qu'on essaye de véhiculer, c'est de boire 2-3 doses la première heure et ensuite vraiment d'alterner avec un verre d'eau et un verre d'alcool. Rien qu'en faisant ça, logiquement, à moins que, voilà, que vous ne fassiez une soirée de 10 heures, hein, mais je vais dire, logiquement, rien qu'en alternant avec de l'eau, vous devriez éviter les effets de la gueule de bois et ne garder que les effets positifs, parce que le fait de vous mettre avec 2-3 doses dans l'état, on va dire, un peu festif, ben, ensuite alterner avec l'eau, ben, ça vous permet de ne pas vous déshydrater, et de reboire un verre entrecoupé d'eau, ben, ça vous permet de garder l'état qui était le vôtre pendant les 2-3 doses. Donc logiquement, en agissant de la sorte, vous évitez tout ce qui est lié à ces effets du lendemain bien connus, maux de tête, vomissements, etc. Et donc c'est déjà une façon assez simple, on va dire, de limiter les dégâts des effets aigus de l'alcool à ce niveau-là, quoi. Boire de l'eau, c'est déjà quelque chose de très important, parce qu'un des impacts très rapides de l'alcool, c'est de déshydrater le corps. Et donc c'est notamment pour ça, c'est ce qui induit notamment les maux de tête qu'on a le lendemain, etc. Donc le fait de boire de l'eau, ben, forcément, ça va déjà vous permettre de ne pas vous déshydrater et d'éliminer toute une série d'effets aigus liés à la consommation d'alcool. Et en plus, ben, on peut aussi se dire que si vous buvez un verre d'eau, ben, vous aurez aussi moins de place pour continuer à boire de l'alcool toute la soirée. Donc, ça a un double effet positif, je vais dire. Par rapport à ça, c'est clair que au niveau du conseil, ben, peut-être aussi qu'il faudrait aussi rentrer dans cette idée qu'on n'est pas obligé d'être sous pour s'amuser. Et donc là, on est plus à quelque chose, je ne sais pas très bien, peut-être plus au niveau du culturel ou de... Où il faut faire comprendre que s'amuser, c'est pas forcément être sous et d'être complètement ivre, qu'il y a moyen, en buvant deux ou trois verres, d'être dans un état où on s'amuse et sans pour autant devoir aller dans l'excès et dans une consommation excessive et régulière d'alcool, qu'il y a tout à fait moyen de s'amuser sans être dans ces états extrêmes, on va dire. Donc ça, je pense que c'est déjà deux grandes choses qui sont intéressantes à dire aux étudiants qui arrivent à l'université, quoi. Je pense que déjà, il faut informer et éduquer. Donc, je pense que donner des consignes claires et des informations claires sur l'impact de l'alcool et les effets de l'alcool, c'est quand même déjà quelque chose d'important. Après, je pense que des moyens qui sont mis en place, comme par exemple février sans alcool, mais c'est des choses qui sont assez intéressantes parce que ça vous permet assez rapidement de voir où vous en êtes avec votre consommation d'alcool. Parfois, on boit beaucoup et on s'en rend pas vraiment compte parce que il n'y a pas d'effet direct sur la vie de tous les jours. Et donc, il faut parfois un peu du temps pour que les effets s'installent. Et donc, on peut, en arrêtant de boire quelques jours ou quelques semaines, assez vite se rendre compte qu'on a finalement développé un petit problème avec l'alcool. Il y a deux grandes choses, je pense, qui sont importantes. Il y a la tolérance. Donc, le fait, quand vous buvez la première fois un verre de vin ou un verre de bière, vous allez très rapidement sentir l'effet de l'alcool. Donc, vous allez vous sentir un peu plus cool, un peu plus joyeuse, etc. Et ce qui se passe, c'est qu'au plus vous consommez, au plus la quantité d'alcool que vous allez devoir boire pour avoir le même effet que vous avez obtenu la première fois, vous allez devoir boire de plus en plus. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la tolérance à l'alcool. Donc si déjà vous vous rendez compte que vous devez boire de plus en plus pour avoir l'effet que vous recherchiez à la base, ça veut dire que vous êtes déjà entré dans un système où votre organisme a appris à ingérer l'alcool et à devoir en ingérer de plus en plus pour obtenir l'effet que vous voulez. Donc ça, c'est déjà un premier signal d'alarme. Et alors, le second qui est important, c'est finalement le contrôle que vous avez sur votre consommation. Si vous arrêtez de boire pendant 2-3 jours, est-ce que vous allez commencer à penser continuellement à l'alcool que vous n'avez pas bu? Est-ce que vous allez vous sentir plus nerveux, plus agressif? Est-ce que vous allez vous sentir irritable? Est-ce que vous allez vous dire « Ah non, moi, il faut que je sorte pour aller chercher une bouteille de vin » Ou est-ce que le fait d'arrêter de boire ne vous pose aucun problème? Donc je pense déjà que se questionner par rapport à ces deux facteurs-là, c'est quelque chose de vraiment intéressant. Est-ce que je dois boire plus qu'avant pour avoir les mêmes effets? Et surtout, est-ce que je peux m'en passer plusieurs jours sans avoir le moindre problème par rapport à ça? Si ces deux facteurs-là ne vont pas dans le bon sens, alors c'est peut-être utile déjà de consulter, de se poser des questions, quoi.
Bon, donc si on doit retenir des conseils de cette émission, il faut alterner verre d'eau et verre d'alcool en soirée. Ça permettra de ne pas faire trop de dégâts le lendemain, mais ça sera aussi meilleur pour le cerveau.
Oui, et aussi privilégier une consommation plus espacée si vous voulez absolument boire et éviter au maximum de boire trop d'un seul coup.
Bon ben voilà, on arrive à la fin. Écoute Léa, je suis super contente d'avoir fait cette émission avec toi. Je trouve qu'on a pu apprendre énormément de choses. C'était hyper intéressant aussi de pouvoir échanger avec Monsieur Campanella.
Oui, carrément. Et puis je trouve que c'est un sujet assez important de nos jours, surtout chez les jeunes. Comme on l'a vu, les étudiants sont au courant qu'il y a des risques, mais souvent c'est pas facile de savoir quelles sont réellement les conséquences à long terme.
En tout cas, cette émission ne visait pas à interdire la consommation d'alcool. On sait que ça fait partie des études, de l'amusement, etc. Mais juste, je pense que c'est important de sensibiliser les jeunes à ce sujet.
Tout à fait. Et pour terminer, on voulait d'abord remercier le professeur Campanella d'avoir gentiment répondu à nos questions et de nous avoir aidé à y voir plus clair.
On espère que ça vous aura plu et que la prochaine fois que vous boirez un verre d'alcool, vous penserez aux conseils qui ont été abordés durant cette émission.
Merci pour votre écoute. À bientôt.
Salut. Da 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 Da